Chapitre 4. Au volant de sa voiture, Becker écoute la radio. Une émission sur Daphné du Maurier. Trois personnes, un animateur et deux invités, un homme et une femme, discutent de la parution d'une nouvelle biographie sensationnaliste faisant allusion à une relation inconvenante entre la romancière et son père.
« Une relation abusive !»
rectifie la femme.
« Incestueuse !»
réplique l'homme.
« Rien n'indique qu'il y ait eu contrainte. »
Cette relation aurait eu lieu alors que Dumaurier n'avait pas encore 16 ans, donc, par définition, il s'agit d'une relation abusive.
Insiste l'invité avec véhémence.
Un enfant n'est pas en mesure de donner son consentement.
Tout à fait,
acquiesce l'animateur.
Et d'après vous,
ajoute-t-il pour tenter d'orienter la discussion vers un terrain moins glissant,
comment se fait-il que nous nous intéressions autant à la vie privée des artistes ? Les gens semblent cramponner à l'idée que ce qu'un auteur couche sur le papier est forcément tiré d'une expérience personnelle. La suggestion ici étant que, eh bien, cette relation, cette situation entre Dumaurier et son père aurait influencé son œuvre, notamment son roman Rebecca.
C'est surtout le cas quand l'auteur en question est une autrice,
fait remarquer l'invité.
À croire que les critiques considèrent que la capacité d'invention des femmes n'a...
Enfin, Marjorie,
soupire l'autre.
Vous n'allez pas toujours tout ramener au sexisme.
Qui a parlé de tout ramener? Si vous me laissiez finir, je...
Becker éteint la radio. La route monte depuis un moment. Il va bientôt atteindre le col. Un dernier lacet, et devant lui se dévoile une vallée encaissée au ton vert, bronze et cuivré. À sa gauche, une pente vertigineuse tapissée de fougères, à travers lesquelles on perçoit les reflets argentés de la mer. À sa droite, une clôture pour empêcher les animaux de s'aventurer sur la chaussée. Becker remarque que sur trois poteaux d'affilée sont perchés des corbeaux qui le regardent passer, noirs et menaçants. Les oiseaux a peut-être été inspiré par un paysage comme celui-ci, songe-t-il. Pas le film, adouci par le soleil de la Californie du Nord et la beauté lumineuse de Tippi Hedren, mais la nouvelle glauque, terrifiante et tragique de Dumaurier dont il est l'adaptation. Un picotement remonte le long de la colonne vertébrale de Becker. Il constate que ses mains sont crispées sur le volant et il se force à remuer les doigts. Il n'arrête pas de repenser à la scène avec Emmeline, dans le jardin. Quand il a abordé le sujet avec Elena, après coup, celle-ci a commencé par se dérober.
« Ce n'était rien, lui a-t-elle assuré. Rien du tout. »
« De là où j'étais, ça avait l'air de quelque chose, a objecté Becker.
Et Elena a secoué la tête avec un sourire.
« Tu sais bien les reproches habituels,
a-t-elle fini par reconnaître, avant d'ajouter «
Oublie tout ça, moi je n'y pense déjà plus. Elle est vieille, elle est en deuil, et elle est un peu dérangée. Pas de quoi se tracasser. »
Becker se repasse également la conversation dans son bureau, et plus particulièrement le moment où Sébastien s'est emporté contre lui.
« Faites pas le malin avec moi !»
Sébastien, ce crétin qui se croit intelligent parce qu'il a fréquenté les écoles privées les plus prestigieuses grâce à l'argent de papa. Sébastien, qui ne connaît rien à rien, qui a la capacité de concentration d'un moucheron et qui ne jure que par les Hearst, les Banksy et tout ce qui est cher et à la mode. Sébastien, qui est grand, beau et riche. Sébastien, qui a été le fiancé d'Elena. Becker se déteste d'avoir laissé cette dernière remarque lui traverser l'esprit. Il se déteste de dire du mal de Sébastien, même en pensée. Sébastien a fait beaucoup pour lui. Énormément, d'ailleurs, compte tenu des circonstances. Becker est troublé, voilà tout. Il n'aime pas savoir Elena seule. Non qu'il soit jaloux, non qu'il ne lui fasse pas confiance, il est simplement anxieux. Encore plus depuis qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Elle s'apprête à entamer son 7e mois. La désinvolture d'Elena n'arrange rien. Elle n'a pas arrêté de boire du vin.
Je te rappelle que je suis à moitié française, Becker.
Participe à des fêtes où elle danse en talons. Il y a quelques jours, il l'a surprise en train de se préparer une tartine de Roquefort, et il a presque dû la lui arracher des mains. Elena n'a pas lu le moindre livre sur la grossesse. Elle n'a pas regardé une seule vidéo YouTube de préparation à l'accouchement. Tout cela lui passe au-dessus de la tête. Becker, en revanche, a déjà fait la route entre leur domicile et la clinique une bonne demi-douzaine de fois. Il a essayé différents trajets, il s'est même renseigné sur le deuxième hôpital le plus proche, à 100 kilomètres plus au sud, au cas où.
« Au cas où quoi ?»
s'est esclaffée Elena quand elle l'a appris.
« Au cas où la clinique serait fermée ?»
Il est tendu parce qu'il s'inquiète pour elle, voilà tout, et parce qu'il ne dort plus.
Depuis quelque temps, elle ronfle et dégage plus de chaleur qu'un radiateur. Alors il reste allongé à côté d'elle à attendre sans bouger, paniqué. Et si les choses ne se passaient pas comme prévu? Et si elle changeait d'avis? Et si elle se rendait compte qu'elle avait commis une terrible erreur? Et si Becker finissait par récolter ce qu'il a semé?
Journal de Vanessa Chapman. Je ne tiens pas en place. Les Cotswolds, c'est censé être la campagne. Mais je n'y trouve rien de sauvage. J'ai l'impression d'être dans une banlieue cossue à regarder défiler des épouses de banquiers au volant de leur Range Rover. Et la chaleur demeure implacable. Les haies bocagères se meurent, le ciel reste d'un blanc obstiné depuis des semaines, les prairies ont brûlé, la terre est assoiffée. Je me languis de l'eau. Je rêve de vert, de bleu, de violet. Rien n'écrit depuis une semaine. De retour de Cornouailles, et les CG dans l'Oxfordshire, de toute façon on se voit à peine. Je suis restée 10 jours. Nager, travailler, parler, parler et parler. Frances façonne d'extraordinaires sculptures en céramique. Des créatures marines mystérieuses et menaçantes qu'elle vernit de bleu et de violet divin. Du mal à peindre. J'aspire à la solitude. Et pourtant je me sens déjà si seule. Comment est-ce possible? Je me sens seule quand je suis seule. Mais c'est encore pire quand Julianne est là. On ne discute jamais. On ne fait que se disputer et baiser. Dernière dispute en date, on ne peut plus triviale. Impossible de se mettre d'accord sur ce qu'on fait pour Noël. Je veux retourner en Cornouailles. Lui insiste pour réveillonner dans sa famille. Ensuite, il prévoit d'aller à Courchevel fêter le nouvel an avec la bande d'Izzy. Ça, c'est au-dessus de mes forces, il dira sans moi. J'essaye de finir un dernier tableau pour l'expo à la Galerie Cube à Londres. Mais le ciel est si triste et la lumière si fade. Je suis cernée par les voitures, les gens et les haies. Rien vendu à l'Expo Cube. Julianne dit que je perds mon temps. Mais un article dans Art Review a dit que j'étais une artiste à suivre. Vanessa Chapman est à l'opposé de tout ce que représente le mouvement des Young British Artists. Ce qui signifie que je suis... à l'ancienne? Admettons. Il est vrai que je ne suis pas du genre à exposer mes draps souillés à la Émine. Et l'article a ajouté que mon travail montrait de la profondeur et de l'émotion. Plutôt encourageant, non? Je n'ai rien peint depuis le début de l'année, mais j'ai trouvé un atelier à Oxford. J'y vais presque tous les jours, même quand je ne travaille pas, ça me donne un prétexte pour sortir. Je serai bientôt seule. La semaine prochaine, Julianne part à Nairobi pour une expédition touristique qu'il a organisée avec Izzy. Puis à Lamu, où Célia Gray loue une maison. Izzy m'assure que ce n'est qu'une passade. Au fond, je ne crois pas que ça me dérange. Si, ça me dérange. Parfois. D'un côté, je voudrais qu'il s'en aille et qu'il ne revienne plus jamais. De l'autre, je voudrais le garder enfermé dans une pièce pour toujours.